Sans détour avec François Beauregard.
Bonjour, ici François Beauregard et vous êtes à l'antenne de Canal M. Aujourd'hui, à Sans détour, au 31 janvier 2022, nous allons parler du 8e art, nous allons parler de photographie, mais non pas de la photographe, mais du sujet plutôt. On va parler à M. Aldric Vincent, dont la réadaptation, suite à un accident qui l'a rendu tétraplégique, a fait le sujet d'une exposition de photos. On va parler d'avoir la tête de l'emploi avec notre chroniqueur Damien Gramont. On va parler de la recherche d'emploi et de ses tenants et aboutissants. Enfin, on parlera aussi d'une société qui serait à part entière pour tous avec M. Daniel Jean de l'OPHQ, l'Office des personnes handicapées du Québec, et tout ça à Sans détour. À la Maison de la culture, au 8105 rue Hochelaga, Montréal, du 15 janvier au 13 mars, a lieu une exposition de photos qui s'appelle « L'Odyssée d'une réadaptation ». Cette exposition-là, qui est le fruit d'une collaboration avec Mémo Québec, moi, l'épinière et motricité Québec, et entre autres, Mme Dominique Perron, qui est photographe. Et l'exposition porte sur l'Odyssée de la réadaptation de M. Aldric Vincent, que nous avons le plaisir d'avoir avec nous. M. Vincent, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, vous-même?
Ça va très bien, merci. L'exposition porte sur vous, votre expérience, mais dans un sens plus large. Vous avez passé 8 mois en réadaptation. Comment tout ça s'est passé dans votre vie? Parlez-nous un peu de ce qui vous a amené à là où vous êtes aujourd'hui.
Oui, alors l'exposition porte sur moi plus ou moins, elle porte sur une réadaptation en général. Ça prenait un sujet et un sujet unique pour avoir un suivi sur du long terme. Donc c'est, je ne sais pas si c'est tombé sur moi ou si j'ai eu de la chance, mais en tout cas c'est ça qui est arrivé. Mais c'est vraiment une réadaptation. Donc le but était de montrer l'expérience de manière un peu plus large pour que tout le monde puisse se faire une idée. Ce qui est arrivé, bon, j'ai eu un accident de voiture en l'été 2018 et en effet, après une période à l'hôpital assez longue, j'ai été en réadaptation j'ai été approché par Mémo Québec qui sont un peu sur place en permanence pour nous aider puisqu'ils avaient cette idée de faire un reportage sur du long terme en test. Et donc, du coup, j'ai été approché par eux. Moi, j'étais déjà passionné de photos avant mon accident.
D'accord.
Ça me paraissait donc assez naturel d'accepter. Et je ne regrette pas de l'avoir fait parce que ça m'a permis d'avoir une belle complicité avec Dominique qui m'a suivi pendant presque 2 ans, plus de 2 ans. Mm-hmm. Et puis bon, le résultat aujourd'hui est là et je trouve ça intéressant d'avoir fait ça.
Et parce que à prime abord, ça c'est... En rétrospective, vous êtes heureux de tout ce qui s'est passé et de la complicité, comme vous dites, que vous avez développée avec la photographe Dominique Perron. Mais au tout début, quand on vous a demandé de participer au projet, est-ce que votre tête était toute là à participer ou vous viviez déjà à ce moment-là, à cet instant-là, quelque chose d'assez traumatisant dans le film?
Oui, absolument. Ben, j'étais... C'est sûr que c'était un moment de ma vie compliqué, vraiment chargé en émotions, en belles choses et puis en épreuves très difficiles, évidemment. Mais Dominique, c'est vraiment c'est très discrète. Elle est venue régulièrement, plusieurs fois par mois au début, puis progressivement un petit peu moins, prendre des photos, mais vraiment, on n'entendait pas. J'ai pas eu de mon seul travail était de faire ma réadaptation.
Oui.
Et elle a simplement mis son regard là-dessus. Et vraiment, ça n'a pas changé grand-chose à mon épreuve.
D'accord. Parce que souvent, quand le sujet se sait photographier, d'habitude, on perd le naturel un peu. On se retourne puis on fait un beau sourire. Quand on sait qu'on veut être photographié. Mais dans ce cas-ci, on vous surprenait dans des moments qui étaient plus intimes, qui étaient plus près de votre propre cheminement intérieur.
C'est vraiment dû au fait que ça s'est passé sur 2 ans. Mm-hmm. À un moment donné, Dominique est devenu pratiquement comme quelqu'un, un membre de la famille ou du personnel soignant. Donc, les barrières sautent un peu. La gêne, le naturel, tout ça disparaît un petit peu. Tout le monde revient un petit peu, se comporte de manière vraiment très naturelle. Donc, c'est l'avantage de faire un reportage sur vraiment un documentaire sur du long terme.
Est-ce que vous avez l'impression que, de vous prêter à cette expérience de faire la chronique photographique de votre réadaptation, ça vous a personnellement aidé à accepter ce qui se passait?
Ouais, peut-être. Peut-être. Je vous dirais, c'est plus aujourd'hui que l'exposition est réelle et qu'elle est là, et que je me vois sur les photos et les épreuves, que je vois le chemin parcouru. Que ça m'aide un petit peu plus, je vous dirais. Au moment où les photos étaient prises, comme je vous dis, moi, j'étais dans le feu de l'action de ce que j'étais en train de faire, d'apprendre, de réaliser. Donc, il y avait vraiment la caméra, j'avais complètement oublié. C'est maintenant, avec le recul, où je suis passé dans d'autres choses, dans d'autres étapes de ma réadaptation, que je vois le bénéfice, l'aspect un peu touchant, parfois un peu difficile à voir aussi. Mais qui me permet de voir le chemin parcouru.
Oui, tout à fait, de réaliser que la vie que vous aviez aujourd'hui n'est peut-être pas celle que vous anticipiez au début de votre réadaptation.
Non, voilà. Absolument pas.
Exact. Qu'est-ce que vous espérez que les visiteurs de l'exposition retiennent de ce qu'ils iront voir?
Je pense que c'est un message d'espoir pour commencer. Quand votre vie est transformée du tout au tout, du jour au lendemain, comme ça, c'est compliqué de se dire que ça va aller, que c'est possible. Et le cheminement un petit peu des photos qu'on a prises montre que oui, en effet, la vie reprend ses droits et puis qu'on a droit à des moments de bonheur et que l'avenir peut être positif. Donc, avant tout, je pense qu'un message d'espoir. Après, les gens qui passent par là, les gens qui sont en train de vivre une réadaptation, j'espère que ça va pouvoir les aider de voir un petit peu la progression. Parce que quand vous faites une réadaptation, tout le personnel soignant vous explique que ça va aller, que, avec beaucoup de travail, mais c'est difficile à quelqu'un qui n'est pas handicapé, qui ne passe pas par là, c'est difficile de croire ce qu'on vous dit. Quand vous voyez une personne qui vous le témoigne et qui vous le prouve, mais d'un seul coup, ça devient tangible et plus réaliste.
Oui,
c'est ça qui va ressortir.
Oui, ça permet de voir, oui, vous avez parcouru ce chemin et vous êtes rendu à de l'autre côté de la vallée.
Alors, absolument.
Quelqu'un peut vous suivre. Tout à fait. Maintenant que vous êtes rendu de l'autre côté de la vallée, entre autres, vous avez une chaîne YouTube qui est la vôtre.
Oui, absolument. Je vous dirais, dès le moment où j'étais dans le lit d'hôpital, je savais que, comme je vous disais, j'étais toujours passionné de photos, d'images et de vidéos, et ce, depuis l'enfance. Donc, je savais que je n'allais pas pouvoir retourner en restauration, qui était mon domaine de prédilection.
D'accord.
Et que, du coup, j'allais essayer de mettre le maximum là-dessus. Et donc, finalement, au début, je pensais faire plus de la photo, ce que j'ai fait d'ailleurs. D'ailleurs, une des photos dans l'exposition, c'est... un portrait de Dominique, la photographe,
et c'est moi. Et c'est vous, d'accord.
Et c'est moi qui l'ai pris. Donc la boucle est bouclée. Mais ensuite, assez vite, je me suis rendu compte que YouTube était un médium en ce moment qui était assez intéressant. Et donc j'ai lancé une chaîne qui s'appelle MTL en roue libre depuis cet été, et qui a pour but de témoigner un petit peu du quotidien d'une personne tétraplégique comme moi. Donc là, c'est vraiment plus pour aider les gens qui passent par là. Donc des choses très banales comme comment je mets mes chaussures, comment je me rase, comment je fais le ménage, des choses comme ça. Et aussi les endroits où sortir.
Donc, oui, il y a deux volets. Il y a la domesticité.
Oui.
On vous voit à la maison, comment vous vous débrouillez, comment vous faites poser des gestes finalement quotidiens qui sont à la fois banals
et difficiles,
voilà.
Absolument.
Et en même temps, on vous voit parcourir le Vieux Montréal ou le Parc Jean-Drapeau.
Oui, absolument. Premièrement, j'essaie que ça soit léger et drôle.
Oui.
L'idée n'est pas du tout de pleurer, là. L'idée est d'avoir du fun. Donc oui, je vais dans des quartiers, je vais dans des lieux, des restaurants, des cafés, Et j'essaie de montrer un petit peu l'accessibilité. Ultimement, ce que j'aimerais vraiment, vraiment faire, c'est permettre aux lieux qui ne sont pas forcément totalement accessibles, qui ont une marche, par exemple, de le devenir, oui. Et de leur donner de la visibilité à ces endroits. Pour que les gens en fauteuil sachent que ça existe, mais de manière générale, pour que le public sache que cet endroit est sensible à l'inclusion universelle et mettre un peu la lumière sur leur spécialité, sur leurs produits, sur ce qui fait que c'est un endroit qui vaut la peine d'être vu. Moi, c'est une excuse pour sortir. C'est une excuse pour faire la vidéo que j'aime beaucoup et puis partager avec ma communauté et puis promouvoir l'inclusion universelle finalement.
Parce que pour les avoir lus, les avoir vus, vos capsules, c'est vrai qu'il y a à la fois de l'humour, hein, parce que des fois vous mettez des petits bouts de clips de 3 secondes que vous avez été chercher ailleurs sur dans le cyberespace là, qui font des petits clins d'œil à ce qui se passe à l'écran. Et en même temps, vous faites preuve de réalisme quand vous décrivez les choses qui sont sympathiques à faire au parc Jean Drapeau. Vous mentionnez aussi que malheureusement, il n'y a pas d'ascenseur à la station Sainte-Hélène. Alors, vous êtes à la fois, vous montrez les choses de façon réaliste avec les bons et les moins bons côtés. Et aussi, vous avez le sens de l'humour. Alors, ça s'écoute très bien, vos capsules. Franchement, ça coule. Voilà.
Merci beaucoup. Mais il faut garder le sens de l'humour, hein, surtout en ce moment avec la période qu'on vit. Et puis, évidemment, un handicap comme le mien, un petit peu du jour au lendemain, il faut garder le sens de l'humour. Sinon, on s'en sort pas.
Exact. Vos capsules sont destinées aussi à des gens qui, à mobilité réduite, qui pourraient venir de l'extérieur, qui seraient en visite au Canada. Ou au Québec, à Montréal.
Vous avez dû entendre mon accent. Hein. Je suis français. Bon, ça fait maintenant bientôt 12 ans que je suis au Québec. Donc, je suis français, mais je me soigne, comme je dis. Oui. Mais quand même, c'est sûr que je suis conscient qu'il y a beaucoup de Français qui adorent le Québec, qui veulent venir visiter le Québec. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Français en fauteuil qui se disent « Est-ce que c'est possible ?» Et comment est-ce qu'on fait ? Vous savez, quand on est dans cette situation, c'est compliqué de voyager, c'est compliqué. C'est pas tant de prendre l'avion, ça se fait bien. Mais qu'est-ce qui va se passer une fois que
une fois rendu au quai, prendre le taxi, c'est là que ça se complique.
Exactement. Le taxi, l'hébergement, les endroits. Est-ce que il y a des endroits qui sont plus pro accessibilité universelle, d'autres qui sont beaucoup moins. Donc j'essaye de parler un peu à ces gens-là aussi parce que je sais par les commentaires des vidéos qu'il y a pas mal de Français qui me regardent.
Ah, mais tant mieux. Que vous puissiez créer un tourisme tétraplégique chez nous, là, c'est bien ça.
Mais pourquoi pas? Para, tétra, même un peu plus large que ça. C'est sûr que je me consacre un peu à ma communauté parce que c'est ce que je connais le mieux. Mais oui, j'essaie de parler, d'avoir un langage le plus universel possible.
Je vous remercie beaucoup, Aldric Vincent, de
c'est moi qui vous remercie.
Continuer de faire vos capsules vidéo sur YouTube. On va vous suivre. Et aussi, bravo sur votre implication, votre fait que vous soyez donné à la caméra, à l'œil de Dominique Perron. L'exposition, encore une fois, est du 15 janvier jusqu'à la mi-mars à la Maison de la culture Mercier, 8105 rue Hochelaga. Merci beaucoup, M. Vincent. On se reparle.
Merci pour votre temps. Merci beaucoup.
Chuck Mangione, le jazzman qui a su transcender les genres avec la pièce Feel Good qu'on vient d'entendre, qui a été un gros tube en 1977. Si vous aimez, ça c'était la version 3 minutes pour la radio, mais la version originale fait 9 minutes. En passant, Chuck Mangione ne joue pas de la trompette, il joue du bugle. Le bugle n'est pas le clairon anglais bugle, le bugle est un instrument apparenté au saxophone. C'est une sorte de trompette, mais plus conique, qui n'a pas le même son. Alors voilà, les recherches musicographiques ont été complétées. On a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Damien Gramont. Bonjour Damien, comment allez-vous?
Bien vous, M. Beauregard. Bonne année.
Bien, ça va bien, merci. Damien, vous êtes technicien en travail social et vous êtes, comme moi, non-voyant. Alors vous avez eu un parcours de recherche d'emploi qui est le vôtre, mais maintenant vous êtes en mesure aussi de nous donner des conseils sur comment chercher un emploi et l'impact que ça peut avoir sur notre propre santé mentale.
Exactement.
Comment est-ce que vous avez vous-même vécu votre recherche d'emploi d'abord?
Ça a été, je vous le cacherai pas, ça a été quand même assez compliqué. Donc, j'ai gradué en 2018. Là, aujourd'hui, on est en 2022, donc 4 ans. Ça a été... J'ai envie de dire, le premier truc, ça a été vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de détermination.
Oui.
Parce que, comment dire, politiquement correct, il y a...
Beaucoup d'obstacles.
Voilà, on va dire ça comme ça. Il y a beaucoup d'obstacles, que ce soit lors des études, lors des démarches d'emploi, lors de même l'intégration sur le marché d'emploi. Ça peut être complexe. Il peut y avoir des personnes qui peuvent nous faire nous remettre en question. Néanmoins, le principal, c'est c'est tout le temps pour regarder derrière nous puis dire simplement, OK, j'en suis là aujourd'hui parce que j'ai vécu ça, et parce que c'est moi qui en suis arrivé là. Donc, je suis capable et c'est pas une autre personne qui va m'empêcher de continuer à avancer.
Exact.
Moi, c'est une phrase que je me répète absolument tous les jours et dans la dernière année qui est la première année de la pandémie, j'ai fait environ 21 entrevues, entre autres dans le communautaire, dans l'institutionnel, donc public, privé, communautaire. Et plusieurs fois, je me suis dit que probablement, si j'avais pas mon handicap...
Votre candidature aurait été retenue.
Malheureusement, elle l'a pas été. Mais des entrevues, mes parents en ont passé des dizaines et des dizaines. Pourtant, aujourd'hui, là, ils ont un job. Mon père n'a pas arrêté de me dire, des entrevues, tu vas en passer plein. Il en faut une seule. Il en faut pas 70, il en faut une, puis ça sera la bonne.
Tout à fait. Moi, je peux vous partager une expérience personnelle qui date de bien plus longtemps. Là. Je me suis déjà rendu à mon 87e CV envoyé par la poste, dans le temps qu'on faisait ça par la poste. Et c'est le CV 81 qui m'a permis de décrocher un emploi.
Voilà. Ben ça, c'est l'exemple même de faut persévérer pour avancer.
Exact. Mais parce qu'il faut avoir l'attitude de... C'est sûr que c'est peut-être un peu galvaudé, là. On ne veut pas faire du psychopop, mais il faut avoir une attitude gagnante, là. Il faut développer sa confiance en soi pour que ça se projette un peu.
C'est sûr, mais je dirais quand même que c'est un ensemble de facteurs. Oui, c'est inné. Des fois, de temps en temps, on est avec une confiance en nous. Après ça, il y a le facteur réseau de soutien.
Oui.
Donc là, il peut y avoir des amis qui nous aident, qui nous accompagnent, qui nous encouragent. Il peut y avoir la famille. Il peut y avoir des organismes communautaires partenaires. C'est les CEMO qui, moi, m'ont vraiment aidé. Dans une ancienne job, j'ai travaillé aussi comme aide à conseiller en emploi. Donc, je suis intervenant social, mais mon collègue était conseiller en emploi. Donc, il m'a aidé aussi. Après ça, c'est sûr, les CEMO aident à faire les CV, à préparer les entrevues, à faire des mises en situation, pas mises en situation, mais des entrevues fictives. Donc ça peut vraiment être quelque chose qui aide parce que ça prépare. Si on n'est pas préparé, qu'on arrive du jour au lendemain à une entrevue, handicap ou pas, là, ça reste qu'on est un humain avant d'être quelqu'un qui est avec un handicap. Si on n'est pas préparé, ça augmente un petit peu les chances qu'on n'ait pas un échec, mais qu'on n'ait pas non plus une réussite.
Oui. Donc, il faut connaître l'employeur qu'on a devant nous.
Tout à fait.
Pour être capable d'avoir tout de suite une interaction positive et qu'on soit familier avec les enjeux ou les réussites ou la culture de l'organisme auquel on aimerait offrir nos services.
C'est pour ça que... Oh, allez-y.
Allez-y.
Ah non, j'allais juste dire que si on a une entrevue, tu sais, moi je vous parlais des 21 entrevues, vous m'avez parlé des 80 plus entrevues que vous avez faites ou les candidatures que vous avez envoyées. Mm-hmm. Pour chaque entrevue, il faut se préparer, mais vraiment un truc de malade. Il faut aller sur le site, il faut voir les missions, objectifs, il faut vraiment tout lire sur l'organisme. Ça prend un temps de fou, je suis d'accord. Mais le bénéfice, il est là. C'est que c'est un investissement au long terme. Mm-hmm. Il faut qu'en entrevue... En entrevue, moi, je vois ça comme un... tu sais, aujourd'hui, on est beaucoup sur Tinder.
Oui.
On rencontre quelqu'un sur Tinder. Les entrevues, je trouve, c'est un petit peu la même chose.
Oui.
Il faut que tu...
il y a un aspect séduction, puis il y a un aspect de... Parce que la personne aussi, elle veut savoir si vous êtes la bonne personne, puis vous posez la même question.
Oui. Oui, quand on est en couple, on le souhaite, c'est pour la vie. Mais quand on veut avoir un bon employeur, on n'a pas envie que ce soit un employeur qui ait une mauvaise attitude. L'employeur ne veut pas non plus avoir un employé qui fait rien indépendamment de l'handicap.
Ou qui soit problématique, qui a des revendications ou qui a des prétentions qui ne sont pas justifiées par son profil de carrière.
Exactement. Donc, c'est pour ça aussi, tu sais, tantôt je parlais du CEMO, des organismes communautaires. Il y a aussi le Centre de réadaptation en déficience visuelle, l'INLB, le bouclier un peu plus en région, qui peut adapter tout l'environnement de travail, qui peut fournir de l'aide à la mobilité, qui peut donc favoriser vraiment l'environnement de travail pour que ce soit le plus facile possible.
Mm-hmm.
Donc, et il y a aussi... Oui, allez-y. Non,
c'est important pour parler de la santé mentale puis de voir comment ça a un impact sur notre estime de soi. Il faut aborder la recherche d'emploi comme si c'était en soi notre travail. Notre travail consiste à trouver un travail, d'une certaine façon. Oui,
oui, mais dans le fond, c'est un travail de chercher un travail. C'est un travail à temps plein. Et moi, quand je cherchais de l'emploi, c'était peut-être pas du 24 sur 24, parce qu'à un moment donné, il faut avoir des loisirs, parce que c'est drainant quand même de passer des entrevues, des fois se remettre en question, se demander si que je vis quelconque discrimination, parce que oui, je me pose la question, mais il faut être en mesure de dégager ces émotions négatives-là, donc que ce soit par des loisirs, que ce soit par des rencontres sociales. Peu importe, mais faut évacuer en tout temps ce qu'on vit de surplus, parce que sinon, on risque de le faire vivre au prochain employeur.
Oui, tout à fait. On peut... Plus tard, dans ma vie professionnelle, je me suis retrouvé en poste de quelqu'un qui recevait les candidats, qui voulait avoir un travail là où je... qui voulait être employé par mon employeur. J'étais comme... C'est la personne à qui faisait les entrevues. Alors, j'ai rencontré plein de gens qui me donnaient leur CV et qui voulaient avoir un job là où j'étais. Et parfois, oui, on peut dénoter quelqu'un qui a une frustration parce qu'il en a marre ou elle en a marre de faire plein d'entrevues. Puis, l'entrevue n'est pas encore commencée, puis on a l'impression que la personne n'est pas là parce qu'elle veut un emploi, elle est là parce qu'elle veut vider son cœur. C'est pas agréable comme intervieweur d'essayer de mener une entrevue d'emploi avec un candidat ou une candidate là, qui est chargée d'émotions, qui déborde un peu.
Ça peut, n'empêche que oui, c'est vrai, mais du côté employeur, ça peut se comprendre, du côté employé aussi, ça peut se comprendre. N'empêche que dans les deux cas, ça ne doit pas paraître.
Exact.
Au même titre que quand on est en emploi, si on a une journée, on a vécu un matin difficile dans la vie personnelle, rendu dans la vie professionnelle, faut pas qu'on envoie promener notre employeur ou
nos collègues
ou peu importe. C'est ce qui se passe d'un côté reste d'un côté, rendu de l'autre côté, c'est tu mets un masque. Parce que oui, un emploi, tu mets un masque. D'une certaine façon, tu es ce qu'on te demande d'être, mais il faut quand même aimer son travail. Parce que 40 heures semaine, si on n'aime pas ce qu'on fait, ça peut être longtemps.
Oui.
Donc,
Oui. Et de la même façon, si effectivement on devient un peu une personne cadrée et définie dans son travail, c'est important à l'extérieur du travail de faire complètement autre chose, puis de se libérer de ça.
Exactement. Puis c'est pour ça aussi que je trouve que le travail, c'est d'une certaine façon, ça définit un individu. Mm-hmm. Tu sais, ça y donne quand même. On parlait tantôt d'estime personnelle, parce que on rencontre.
De réalisation de soi-même.
Oui. Oui, ben oui. Oui, oui, parce qu'on apprend des nouvelles choses, on rencontre des nouvelles personnes.
Exact.
On rencontre des amis, oui.
Et c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher, qu'il faut continuer, même si parfois, certains matins, ça ne nous le dit pas. Ben, Damien Gramont, merci. Et on va continuer à avoir la tête de l'emploi avec vous.
Eh bien, avec plaisir. Puis moi, je vais écouter les 9 minutes de la chanson.
Merci.
Bon détour avec François Beauregard.
Rebonjour après la pause. L'Office des personnes handicapées du Québec présentait récemment, en collaboration avec le gouvernement, une refonte de la politique gouvernementale à part entière. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir M. Daniel Jean, qui est le directeur général de l'OPHQ. Bonjour M. Daniel Jean, comment allez-vous?
Bonjour. Ça va très bien, vous?
Ça va très bien, je vous remercie, M. Jean. La politique à part entière s'inscrit tout de même dans une démarche qui avait déjà été entreprise.
En fait, ce qu'on a présenté la semaine dernière, mm-hmm. c'est un nouveau plan d'engagement pour continuer la mise en œuvre de cette politique gouvernementale.
Exact.
La politique gouvernementale est issue de la loi sur l'exercice des droits des personnes handicapées et dans le fond, qui a été adoptée en 1978 et revisé en 2004. Et suite à ça, il y a eu des plans d'engagement qui ont été faits. On est au troisième plan d'engagement.
Mm-hmm. Et là, à ce moment-là, on commence à mettre l'épaule à la roue, si on veut, parce que plusieurs... Il y a une douzaine de chantiers, si on veut, qui ont été identifiés.
En fait, Il y a eu des actions, vous parlez des actions structurantes, il y a 12 engagements qui ont
oui.
été pris. Et ces engagements-là, c'est un élément à travers toute la stratégie, parce qu'il y a comme trois grands volets, en fait même quatre. Il y a les engagements gouvernementaux. Le premier plan d'engagement, il y en avait 420, excusez. Le deuxième plan d'engagement qui s'est terminé il y a 2 ans, il y en avait 63. Et là, maintenant, il y en a 12. Donc, la personne qui regarde les plans d'engagement peut dire, mais est-ce qu'il y a des engagements de l'État? Et la réponse, c'est non. C'est qu'on va moins sur des engagements interministériels ou des engagements gouvernementaux et on va plus vers des actions au cœur de la mission mm-hmm. des municipalités, des ministères, des organismes gouvernementaux. Et c'est ça les deux autres volets du plan d'engagement. 12 engagements. Un projet structurant qui vise à analyser les programmes qui sont offerts et le troisième volet, les plans d'action.
D'accord. Parce que les engagements touchent des aspects comme le logement, les communications, l'emploi, ainsi de suite. Et il faut faire un constat de la situation actuelle, d'où l'analyse des programmes existants.
Bien, en fait, il y a des engagements qui visent à aller plus loin. Exemple, il y a un mm-hmm. engagement, le premier, qui dit on va regarder, actuellement, il y a des municipalités qui sont assujetties à l'élaboration d'un plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées. Mm-hmm. Autrement dit, un plan d'action qui vise à assurer qu'on va adapter nos services aux citoyens.
D'accord.
Donc, actuellement, c'était les municipalités de 15 000 citoyens et plus.
Mm-hmm.
Et maintenant, dans ce projet-là, on veut abaisser pour aller capter un plus grand nombre de municipalités. Donc, autrement dit, mieux couvrir le territoire
mm-hmm.
pour que les personnes handicapées, quelle que soit la localité dans laquelle ils soient, puissent avoir les mêmes accès.
Donc, on ratisse plus large. On parle de villes qui ont parfois moins de moyens ou qui sont à l'intérieur peut-être de MRC.
Oui.
Et
qu'on va être en mesure de soutenir avec un partenaire qui,
mm-hmm.
Un partenaire qui va nous aider, qui relie toutes les municipalités. Donc, on va travailler pour justement essayer d'aller plus loin dans la mise en œuvre des actions qui visent à éliminer le plus possible d'obstacles que rencontrent les personnes handicapées dans leur quotidien.
Et l'OPHQ, évidemment, est au cœur de ça, parce que vous êtes le lien entre ce qui se passe sur le terrain puis l'appareil gouvernemental.
En fait, on est dans l'appareil gouvernemental. Mm-hmm. Le rôle de l'OPHQ, c'est, contrairement à un organisme de défense des droits, qui va oui. sortir sur la place publique puis qui va illustrer des problèmes que rencontrent les personnes handicapées et revendiquer des choses, l'OPHQ, son rôle, lui, c'est d'être au cœur de l'appareil gouvernemental et de soutenir et de conseiller les ministères et organismes gouvernementaux pour pouvoir adapter leurs services, mm-hmm. adapter leurs actions le plus possible de façon à devenir accessible, à devenir des services inclusifs. Et on fait la même chose avec les municipalités et le partenariat qu'on vient de faire avec Espace Muni, qui est un organisme qui vient regrouper des intervenants de différentes municipalités, va nous permettre aussi d'aller plus loin.
Vous êtes un influenceur. On va dire ça comme ça. Vous essayez d'influer en distribuant de l'information pertinente parce que vous avez accès à ce qui se passe. Donc, vous pouvez voir ce que l'information circule d'un point à l'autre sur le territoire et de pouvoir, à ce moment-là, aider les municipalités, entre autres, dans ce cas-ci, à avoir une action qui est plus cohérente, qui a déjà été... efficace. Vous êtes arrivé en poste en juillet 2020. Vous êtes arrivé juste oui. après le début de la pandémie. Ça n'a oui. pas dû être facile. dès le départ, là, vous étiez jeté un peu à la rivière.
Oui, mais je travaillais déjà dans l'appareil gouvernemental. Mm-hmm. Je travaillais justement sur des programmes d'aide financière de dernier recours pour les travailleuses et les travailleurs qui ne pouvaient plus travailler. Donc, on D'accord. avait monté sur pied des programmes. Donc, j'étais déjà sur la ligne de feu. Donc, quand mm-hmm. j'ai pu relever le nouveau défi avec l'Office, bien là, j'étais avec une équipe qui est gagnante, qui était prête à aller plus loin dans l'action. Donc, oui, c'est particulier parce que j'ai 120 quelques employés, peu que j'ai rencontrés en présence.
D'accord.
J'ai surtout vu mm-hmm. De façon virtuelle.
La pandémie a mis, d'une certaine façon, en lumière certaines carences qu'il y avait dans l'accessibilité, entre autres, des services. On parle à des choses qui reviennent souvent sur le tapis, comme l'accessibilité du site Clic Santé ou des demandes pour avoir des tests PCR en priorité, et ainsi de suite. Est-ce que l'OPHQ est en mesure de jouer un rôle là-dedans pour faciliter les choses?
On joue un rôle qui est peut-être pour le citoyen, dans ces cas-là précis, moins sur la place publique, mais qui mm-hmm. nous permet de faire des grandes avancées. Bon, durant toute la pandémie, on a rencontré, durant les périodes actives, on a tenu avec des partenaires gouvernementaux des rencontres avec le milieu communautaire, des représentants du milieu communautaire à toutes les semaines, pour justement entendre qu'est-ce qui se passait, puis pouvoir relayer l'information. Mm-hmm. On a coordonné aussi un comité de travail là, qui visait les communications adaptées, puis on avait la collaboration du ministère de la Santé et des Services sociaux. Puis c'est ce qui a permis effectivement de s'assurer qu'on avait, par exemple, le langage LSQ qui était mm-hmm. aussi utilisé lors des conférences de presse. Si je vais dans le plus pointu, donc autrement dit, on est beaucoup dans le travail, quand on se rendait compte qu'il y avait un problème de transport, qu'il y avait un problème de communication, on prenait l'information, puis on se mettait à contacter les gens des ministères mm-hmm. concernés, puis on essayait de trouver des voies de passage. Si on prend l'exemple de Clic Secure, qui est un bel exemple, OK? Clic Santé, excusez. Dans Clic Santé, l'accessibilité pour les personnes qui ont une incapacité visuelle, on se bute, hein, on mm-hmm. essaie de rentrer dans le système, puis on n'est plus capable, puis là, ça prend une assistance téléphonique pour pouvoir continuer. On a travaillé avec les gens de la santé là-dedans pour identifier le problème et essayer de voir comment on pouvait passer en mode solution. La santé a fait ses travaux, a été d'une grande collaboration. Le problème, c'est que la plateforme, le système de Clic Santé, il est désuet un peu. C'est que là, il faudrait le remettre à niveau pour après ça mettre les adaptations, les fonctionnalités qui vont nous permettre...
Dans le contexte actuel, on peut comprendre que c'est difficile de changer sa monture quand on traverse la rivière.
Oui, mais par contre, le problème est bien identifié. Vous avez raison, ils ne peuvent pas agir là. Ils savent exactement où agir, quand agir. Aussitôt qu'il va y avoir une fenêtre d'opportunité là, où le site va être moins interpellé, ils vont pouvoir passer à l'action et ils ont l'expertise pour le faire. Donc, on a, ça, c'est un bel exemple où on a une collaboration très positive. Il va y avoir des engagements que ce ministère-là a pris, puis il va continuer à prendre. Donc, ça, on avance dans la bonne direction. Mm-hmm. À l'heure actuelle, si on nomme un chat un chat, on est encore en attente de la mise en place de la solution.
Mais au moins, on a identifié le problème, on en est conscient. Et c'est un peu une question de faire ça au vol, là. Et quand la demande est importante sur le site et son programme en background, ben c'est un peu difficile d'agir immédiatement. Alors, ça illustre un peu votre rôle de facilitateur, mais souvent, vous êtes comme à l'arrière-scène. Alors, comme on vous n'êtes pas, comme vous le dites, sur la place publique là, à faire des revendications, mais vous faites plutôt du travail derrière le décor pour essayer de voir ce que ça fonctionne mieux. En ce moment, il y a un projet interministériel d'envergure sous la responsabilité de l'Office pour une meilleure réponse aux besoins essentiels des personnes handicapées. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'on s'en va vers un guichet unique ou c'est difficile à concevoir?
Non, à l'heure actuelle, on pourrait dire 249 programmes qui desservent les personnes handicapées, programmes, mesures ou services, tout dépendant de l'appellation, qui desservent les personnes handicapées et la population générale.
D'accord.
Sur les 249, il y en a 174 qui sont spécifiques aux personnes handicapées.
D'accord.
Ce sont vraiment là, c'est les gens qui répondent à la définition de la loi. Donc, c'est beaucoup de programmes.
Exact.
Ce qu'on a fait avec le projet de simplification qu'on a parti il y a 2 ans, on a regroupé sur Québec.ca l'ensemble des programmes. Puis on est en train de travailler sur la simplification de l'accès aux services.
Mm-hmm.
Ce deuxième projet-là, ministériel, qui s'ajoute, lui, il part d'une demande du ministre Carman, qui a demandé à l'Office, il a dit, écoutez, là, vous avez 174 programmes spécifiques aux personnes handicapées, on a 249 programmes au global, et on a encore des problèmes d'accès aux services. Donc, c'est-tu un problème d'argent? C'est-tu un manque de complémentarité? C'est-tu, dans le fond, on identifie mal les besoins? On travaille sur les mauvais obstacles? Lui, ce qu'il se posait comme question, qu'il a posé comme question, puis le mandat que l'Office a eu, c'est essayer de m'illustrer là, sur quoi je dois agir. Ils sont où les bloquants? C'est quoi qui manque? Puis on peut-tu régler ça une fois pour toutes? Donc, ce projet-là vise dans un premier temps à regrouper 30 programmes, donc les 30 programmes qui visent à maintenir les gens dans la communauté.
D'accord.
On s'est dit, on va commencer par ceux-là. Et on va essayer d'identifier c'est quoi les voies de passage. Donc, par exemple, de façon très concrète, l'objectif de ce projet-là n'est pas de modifier un programme. Ça, c'est une responsabilité d'un ministère,
oui, d'un organisme
gouvernemental. C'est d'essayer de voir la fluidité, d'essayer de voir la hauteur du financement d'un programme versus à l'autre. Est-ce que dans le fond, je suis capable de capter un jeune qui a 19 ans ou 20 ans au niveau des services d'emploi éventuellement. Je devrais être capable de le voir venir. Là, j'ai 2 ans devant moi pour le voir venir puis d'ajuster les services. Même chose pour les enfants qui quittent l'école vers des activités résidentielles. Donc, on veut essayer de faire un parcours du continuum de services puis d'essayer de voir. Dans ce parcours-là, ils sont où les bloquants? C'est où qu'on n'est pas capable d'identifier les bonnes personnes aux bonnes places? Est-ce que ça entraîne des ajouts d'argent ou des assouplissements de programme?
Parce que souvent, l'impression qu'on a, et vous faites de façon tout à fait juste référence à la continuité de la vie d'une personne à partir de ses besoins à la petite enfance ou pendant la scolarité. Souvent, il y a une cassure entre la scolarité, l'atteinte de la majorité, le milieu du travail, le logement. On a l'impression à chaque fois qu'il faut se réinscrire et vous semblez donc chercher davantage qu'il y a une fluidité qui va suivre la personne au fur et à mesure de son développement.
Oui, on pense que c'est là le rôle de l'Office.
Mm-hmm.
C'est qu'un ministère ou un organisme gouvernemental, lui, a une responsabilité par rapport à des programmes qui sont sous sa responsabilité.
Exact.
Mais la vision globale, ça prend un organisme, par exemple pour les personnes handicapées, ça prend un organisme qui va s'assurer de la rendre visible, ce continuum de services-là, de rendre visible cette vision-là, et dans un deuxième temps, d'identifier ce sur quoi il faut agir. Et par exemple, il y a une entente, moi à l'époque, quand j'étais au ministère de la Santé, ministère du Travail, Emploi et Solidarité sociale, mm-hmm. on a créé une entente entre les personnes qui étaient dans le programme SENS de Retraite Québec,
d'accord.
qui à leur majorité, tant qu'il n'y avait pas de travail, avaient besoin d'une aide financière de dernier recours. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une entente qui fait en sorte que le parent ou la personne elle-même fait simplement une lettre et les organismes transfèrent les informations, les demandes de services et tout le reste, toute la documentation. Ce qui fait que nous, on sait d'avance, quand on est dans un ministère qu'il y a une clientèle qui s'en vient, c'est entre ministères que la paperasse se travaille, d'une certaine façon. Mm-hmm. On réduit les démarches pour la famille ou la personne elle-même. Et dans le fond, on met de la prévisibilité, on met de la simplification. Donc, là, ça rend plus fluide et on est capable d'agir. Si on voit qu'on a passé de ressources dans un an, ben on a quand même, avec ce poteau-là, on est capable de dire, bon, il faut aller chercher les ressources qui nous manquent pour accueillir les personnes au bon endroit, quand c'est le temps et de la bonne façon.
Oui, tout à fait. Qu'il y ait une prévisibilité du cheminement de la personne et, comme vous dites, que la documentation, que le soutien, que l'accueil d'une étape à l'autre de la vie se fasse plus aisément. Alors, on ne parle pas d'un guichet unique, mais on parle plutôt d'une continuité d'un oui. service à l'autre. Et que ce soit...
On n'est pas dans une centralisation.
Non, exactement. Je comprends tout à fait. Oui. Je pense que la démarche fait oui. du sens par rapport aux étapes de la vie d'un individu, là, de la petite enfance à la scolarité, à l'âge adulte, à la retraite. C'est évidemment, un cas à l'autre, ça peut être fort différent. Sur qu'est-ce qui va retenir votre attention en 2022? Quels sont les chantiers ou les choses que vous voudriez aborder au-delà de cette politique-là?
Bien, dans ce qu'on est en train de faire dans le projet de simplification, mm-hmm. on travaille toute la question de la coordination des services autour des personnes.
D'accord.
Une personne, supposons, quitte le réseau scolaire ou à 20, 25 ans et vient d'entrer dans le marché du travail, mais il faut coordonner les services, autant transport, exemple, santé, l'accompagnement au travail, etc. Donc, quand la personne a besoin d'une multitude d'intervenants et que ces intervenants-là c'est pas fluide, c'est pas attaché, donc à ce niveau-là aussi, on veut faire une intervention.
D'accord.
Ça, c'est le concept du plan de service. Qui est dans la loi depuis 42 ans.
Mm-hmm.
Ça fait 42 ans qu'on se dit qu'il faudrait faire ça et on a dérapé. Moi, ce que je me suis dit quand je suis arrivé, le mandat que je me donne, et j'en ai parlé avec le ministre, il est 100% d'accord, il nous appuie. Effectivement, arrêtons de dire qu'il faudrait faire des plans de service et mettons en place les mécanismes pour les faire.
Mm-hmm.
Et ça va être un des gros chantiers de la prochaine année. Un autre exemple, avec le ministère du Travail, Emploi et Solidarité sociale, il y avait le programme Revenu de base pour les gens
oui.
mm-hmm. qui étaient sur l'aide financière de dernier recours et qui ne pouvaient pas travailler, étaient contraints de se faire à l'emploi. Donc, c'est la dernière année avant le lancement du programme qui s'en vient en début 2023. Donc, on va beaucoup travailler cette dimension-là. On va travailler aussi toute la question. Vous avez dû entendre parler dans les journaux, toute la stratégie nationale d'architecture puis d'urbanisme.
Oui, oui, tout à fait. Avec le code, le renouvellement du code de la construction, puis la conception oui. universelle des bâtiments.
Ça, c'est gros. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans qu'on pourra aller chercher. L'Office travaille beaucoup avec les ministères concernés, notamment le MAMAC et la culture. Et ce que je peux vous dire, c'est que les annonces vont venir plus tard. Mais ça va venir chercher beaucoup de nos énergies. Et ça, c'est un exemple de travail en amont où on dit, on prend les actions déjà en cours dans un ministère ou des ministères, puis on ajoute le volet inclusif, autrement dit. C'est ce qui va nous permettre d'avancer. D'ailleurs, si je pouvais me permettre un clin d'œil, dans le plan d'engagement, la partie la plus importante à mes yeux, et la partie après la présentation des trois types d'engagement. Parce qu'on dit, en plus de tout ça, il y a des initiatives gouvernementales qui existent.
Oui.
Ces initiatives gouvernementales-là, ben là, on nomme justement le programme Revenu de base, la stratégie nationale pour l'intégration et le maintien de l'emploi des personnes handicapées. On nomme, entre autres, la question d'hébergement, c'est la nouvelle politique d'hébergement et de soins de santé, la politique de mobilité durable. Donc, on voit qu'il y a de plus en plus, et c'est ça l'esprit de la mobilisation accrue des ministères, on demande au ministère, au lieu de faire des actions, des engagements spécifiques aux personnes handicapées, pouvez-vous concevoir des programmes, des services qui sont dans une vision inclusive,
oui,
qui vont aider les personnes handicapées, mais aussi toute personne ayant des incapacités temporaires.
Exact, oui. Ça peut aussi toucher le vieillissement de la population. Oui. Et là aussi, il y a une question où l'accessibilité universelle dans un sens large, où la conception universelle des programmes et du bâti, entre autres, va aider beaucoup de gens, beaucoup plus largement que la simple définition.
Oui. Et l'idée, c'est de faire cet équilibre-là. Il faut donner des services spécifiques aux personnes handicapées parce qu'ils ont été longtemps marginalisés dans la société. Donc, c'est bien qu'on ait des programmes spécifiques, mais ayons de plus en plus une approche inclusive qui va aider les personnes, les jeunes familles, qui, dans les faits, sont pris des fois avec des problèmes,
oui,
des incapacités de déplacement, justement en lien avec le fait d'une poussette, etc., une personne aînée, etc. Donc, ça aide plus de monde et tout le monde est gagnant.
Oui. Ben, Monsieur Daniel Jean, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. À titre de directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec, vous avez beaucoup de tâches, beaucoup de chantiers devant vous. Ils sont tous importants, mais que vous les abordiez un par un avec la démarche que vous venez de nous donner, là, de nous expliquer. Ça nous amène à penser qu'il y a une logique, qu'il y a un travail, qu'il y a une cohérence, et ça nous fait du bien d'entendre ça. Et on pourra se reparler peut-être dans un an, voir où est-ce qu'on en est rendu,
oui,
puis continuer de cheminer. Merci beaucoup.
Parfait. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.
Merci. Zydeco Joe, de son vrai nom, Joseph Adam Mouton, qui est né dans les années 40 à Lafayette, en Louisiane. Quand il était jeune à l'école, on lui interdisait de parler français. Et c'est pour ça qu'il, plus tard, il a décidé de consacrer sa musique à, je dirais, à rompre les murs de la haine, ainsi de suite. Il disait le Zydeco, comme ça, tout le monde danse pour une soirée, puis on oublie toutes les différences. Voilà. Bonjour, Mme Campagna. Comment
allez-vous? Bonjour, vous avez un mois d'avance sur le Mardi Gras?
Oui, on se pratique.
J'ai vérifié pendant la chanson, mais ce sera le 1er mars prochain.
D'accord. Bon. Il n'y a pas de mal à commencer de bonne heure.
Voilà.
Qu'est-ce qui se passe dans le monde?
Eh bien, du côté de la France, on surveille les films qui seront en nomination pour le Marius de l'audiodescription. Il sera décerné le 23 février prochain. Les nominations pour le Marius comme tel ne sont pas encore sorties, mais ça se base sur celles des Césars, les meilleurs films aux Césars. La seule condition, c'est qu'il faut que tous ces films-là aient une audiodescription, qui est le terme utilisé par nos cousins français pour vidéodescription. Alors, jusqu'ici, il y a plusieurs films, dont le fameux Aline, qui a fait beaucoup parler ici, de Valérie Lemercier, qui sont en nomination pour César du meilleur film. Reste à voir s'ils seront aussi en nomination tous pour la meilleure audiodescription.
Le Marius qui est un clin d'œil avec les Césars, un clin d'œil à Marcel Pagnol. On peut comprendre. Voilà. Disney, toujours... en parlant de cinéma, Disney, eux, font parler d'eux, mais pas pour la bonne raison.
Non, c'est l'acteur Peter Dinklage, qui était dans Game of Thrones, qui reproche à Disney de vraiment s'être assez peu réinventé pour une nouvelle version du film Blanche-Neige et les Sept Nains. En fait, Disney se vante beaucoup d'avoir cette fois-ci choisi pour jouer le rôle de Blanche-Neige une actrice latine.
D'accord.
Donc voici, nous faisons preuve de diversité, mais c'était dans un podcast avec Marc Maron, fait que là, je ne vous dirai pas les citations exactes parce que c'était assez coloré, disons.
Oui, ben M. Dinklage a dit sa façon de penser, là, comme
voilà.
Quoi l'occasion a été complètement...
Il a dit, vous vous vantez perdu. D'être progressiste, mais vous nous faites encore l'histoire rétrograde de sept nains vivants dans la grotte.
Oui.
Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que j'ai rien fait pour faire avancer cette cause avec ma tribune? Faut croire que je ne suis pas assez fort.
Oui, voilà, exact. Puis, mais il a dit d'autres mots là-dedans qu'on ne peut pas dire en ondes.
Voilà, exactement. Disney s'est défendu en disant qu'ils avaient consulté des membres de la communauté des petites personnes. Bon, faut dire qu'ils ont déjà fait pire. Il y a plusieurs années, ils avaient pris des acteurs qui n'étaient pas des petites personnes, ils les avaient transformés.
Ils avaient collé par Photoshop presque les visages sur des corps, comme quoi ils n'avaient pas été capables de trouver sept personnes de petite taille qui seraient des bons acteurs.
Voilà.
C'était un peu ennuyeux, ça, comme idée. On va parler rapidement du défi sportif qui va commencer bientôt.
Oui, qui dont la présentation est encore incertaine pour ce qui est des activités. En personne, donc on commence déjà à songer à une programmation là, hybride. Donc, on y va dans le diversifié pour pouvoir s'ajuster à toute éventualité, mais l'équipe a bon espoir là, que la situation puisse s'améliorer pour permettre la tenue de compétition sur certains sites du 22 avril
parfait.
Au 1er mai 2022.
Madame Campagna, je suis désolé. Cette semaine, on vous a pas fait la belle part. On vous a
c'est
pas laissé
grave.
Beaucoup de temps. Merci.
Je vous en prie.
On se reparle la semaine prochaine. Merci, Nicolas. Merci, Christiane.